Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec une star internationale, Monsieur Scott Fields.
Hello, darlings. Hello, hello. J'espère que vous soyez très heureux d'entendre ma voix. Et promis, on va essayer de parler de stand-up. Parce que je fais un petit clin d'œil, un petit coucou à un loustique de Toulouse. Il dit, ah, vous me régalez quand je vais à la salle de sport. Et j'ai attendu 10 minutes et vous avez rien dit de stand-up.
Ah,
Donc voilà, on va parler stand-up, stand-up, stand-up.
mais les gens, ils ne veulent pas que tu parles de stand-up. Les gens, ils veulent que tu parles de tes livres érotiques audio. Ils veulent que tu parles de tes peluches tatouées.
Ah
Ouais,
ouais.
ton fan club, il est très friand de ça.
Ah
D'ailleurs,
ouais.
petite nouveauté. Il y a une nouvelle option qui a été mise en place dans le monde du podcast. C'est qu'en fait, les épisodes ont un transcript maintenant. C'est-à-dire que tu peux lire tout l'épisode si tu ne veux pas l'écouter.
Ah oui, c'est bien.
Ouais. Ça améliore donc un peu le référencement de ce qu'on fait.
Bah oui.
Et surtout, tu t'aperçois effectivement que des fois, avant d'entrer dans le vif du sujet, on digresse un peu.
C'est bien, on aime bien digresser. D'ailleurs, je fais en ce moment même, j'étais là en train d'enregistrer un livre en espagnol, un livre audio en espagnol sur des conseils pour investissement pour la bourse qui
Alors,
est
faut
attachée aux
mettre dans
membres.
quoi?
Ben, il faut attacher les bourses aux membres. Et non, ça, c'est un canular de comment il s'appelle? Jean-Yves Lafesse. Très bien. Bon, c'est
D'accord.
pas. Bah, écoute, c'est intéressant. Il dit, il faut investir et presque ne plus s'en occuper. Parce que tu passes ta vie à regarder ton truc, si tes actions montent ou baissent et quoi, quoi. Et tu pètes un plomb et t'es, on dirait, un accro à la drogue. Et tu gagnes rien parce que tant que tu vends pas ou que t'achètes pas, il n'y a rien qui se passe. Mais voilà. Donc, je sais malgré moi des trucs sur l'investissement, les fonds d'investissement de retraite aux États-Unis. Et un jour, je vais dire ça à quelqu'un, ils vont se dire, putain, mais ce mec, il est intelligent et tout.
C'est
Il est
tout.
cultivé. Alors qu'on me force à lire chaque mot de cette merde et après, je le retiens malgré moi. Voilà. Donc, stand-up.
Allez, c'est parti, stand-up, stand-up, stand-up. Juste un truc, on va remercier aussi les gens. Alors, on s'en rend compte, moi, particulièrement là, je suis en tournée, je rencontre des auditeurs. Et vous avez tous un mot gentil, que ce soit des gens qui se lancent un stand-up ou qui en font déjà. Des fois, Stand Up France, ça vous a mis le pied à l'étrier et c'est trop cool. Des fois, des gens qui n'ont aucun rapport. Là, j'ai rencontré un mec qui était restaurateur dans les Deux-Sèvres, qui était fan du podcast, qui connaissait très bien. Et voilà, pour lui, tu es un personnage mythique comme une licorne. Donc, je me suis fixé la mission de t'amener en tournée là-bas.
La licorne la plus obèse de. Ça, c'est drôle. T'as une licorne obèse avec une petite corne avec le drapeau portugais. Ça, c'est fait bien, ça. Une
Ça
belle
sera
licorne.
le logo de
Ça,
ta
ça.
nouvelle boîte de prod.
C'est ça. Merveilleux.
Alors, on va rentrer dans le stand-up. Je vais vous parler de deux petits actus chaudes et après, on parle de stand-up en tant qu'art. Deux actus chaudes. La première, c'est qu'il y a un article de Mediapart qui est sorti.
Ben ouais.
Une espèce de MeToo stand-up qui se renouvelle. Donc, l'article est disponible sur le site de Mediapart. Ça faisait 2 ans qu'on en parlait, que l'article sortirait. Voilà, je vous laisse le lire, je vous laisse vous l'approprier, prendre les informations qu'il y a. Voilà, chacun a eu les gens, les victimes ont eu la possibilité de s'exprimer. Moi, je vais juste dire de mon côté un petit truc, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on soit dans un milieu qui soit systémiquement pourri.
Ouais.
Je ne rencontre pas des gens dégueulasses, je ne rencontre pas une ambiance pourrie partout où je vais. Est-ce que je rencontre un sexisme soft? Oui. Un sexisme plus appuyé, certainement des fois. Et j'ai l'impression que ce type d'article, le fait d'en être conscient, le fait d'en parler, ça va aller dans le bon sens et on va pouvoir repérer, limiter ses comportements et se mettre en contre quand on les observera, si on a le courage de le faire.
Ouais.
C'est un petit mouvement collectif. Donc, tant mieux qu'il y ait ce type d'article sort, que les gens qui ont besoin de témoigner puissent le faire. Qui ont besoin d'être entendus puissent être entendus et que la justice, s'il y a lieu d'être, fasse son œuvre. Et voilà, et c'est très bien que les personnes aient pu raconter leur histoire. Mais je ne pense pas que le stand-up soit un milieu particulièrement violent à ce niveau-là. Mais il y a quand même, ça existe et il faut le dire, il faut le dénoncer, il faut lutter contre ça.
Ouais. Moi, je trouve que le stand-up, c'est un milieu assez, assez bâtard dans le sens où tu es censé avoir une vision clairvoyante de la société, tu es censé dénoncer, tu es censé avoir un regard critique sur ce qui se passe autour de toi. Et c'est vrai que dans le petit, là, le petit intramonde du stand-up, il y a beaucoup de trucs. Et voilà, quoi, on ne dénonce pas, alors que on est là, souvent les clowns. Ça me fait penser au spectacle de Brenner. On va en parler, mais voilà, les clowns, on est là pour montrer, dire la vérité au pouvoir en face de tout le monde. Et quand il s'agit de nous et des producteurs et machin, mais bon, finalement, c'est un milieu comme un autre, quoi.
Oui, c'est un milieu comme un autre. Et la médiocrité, le sexisme et tout, c'est nous. C'est-à-dire, c'est pas les producteurs, ouais, c'est nous en tant qu'humains, en tant que personnes. Ou des fois, on a une réflexion, qu'on pense mal une fois, on est juste idiots, ou alors on blesse les gens, et c'est à nous à nous remettre en question aussi. Garçon-fille, hein, y a pas de problème, c'est plutôt les garçons pour le coup. Mais voilà, et c'est une question d'éducation. On va plus s'éduquer, on va comprendre. Et si on fait des erreurs, on va essayer de mettre le doigt dessus, de plus les faire. C'est tout. Et ça va être un travail collectif. Et c'est bien qu'on en parle. Et c'est bien que ce combat soit mené. Et voilà, ouais, le stand-up, c'est un milieu que j'adore. C'est un milieu où je rencontre des gens formidables. Et je rencontre plus de gens cool que de gens problématiques. Et avec la particularité, c'est que les gens problématiques, juste, on les ostracise, on va pas les fréquenter, on les programme pas, on n'est pas avec eux, et ça sera déjà un bon début.
Mais oui. Donc, ouais, allez-y, faites-le. Alors,
ça, c'était le premier petit point un peu d'actu chaud. Deuxième petit point, c'est qu'il y a eu des contrôles d'URSSAF, nous, dans le sud, sur
ouais.
Le ouais. Donc, c'était, de ce que j'ai compris, c'était pas des contrôles qui avaient pour but de pénaliser les gens, de les briser. C'est juste des contrôles où l'URSSAF a dit ça ne marche pas ce que vous faites, c'est pas légalement, ça ne marche pas. Si vous voulez rentrer dans les clous, il faut faire ça, ça et ça.
Ah ouais.
Donc, dès le moment où ça a commencé, donc c'était local, c'était dans le Var.
Ouais.
Voilà. Nous, à Marseille, on n'a pas encore eu de retour sur ça. Peut-être que c'est très local, je ne sais pas, mais voilà, il faut s'attendre dans les prochaines années à ce que l'État rentre dans le stand-up, c'est-à-dire que la machine fiscale vienne s'intéresser au stand-up, et ce n'est pas une mauvaise chose.
Bah oui, non, mais c'est bien. Moi, d'ailleurs, j'ai suivi ici les conseils, parce que moi, je suis là avec toi et j'écoute, comme tout le monde, les conseils que tu donnes souvent, et j'essaie de les suivre. Et là, j'ai eu rendez-vous avec un avocat vendredi dernier pour ma boîte de prod, etc. Et je lui disais, bah, il faut qu'on soit dans les clous en tant que producteur, en tant qu'organisateur de spectacle, c'est pas la même chose, parce que c'est pas, si tu organises un événement et que tu programmes des artistes, tu es leur employeur. Donc si tu es leur employeur, il faut faire tout un tas de trucs. Mais si tu fais une scène ouverte et que des gens viennent d'eux-mêmes, c'est pas la même chose. Donc c'est un peu, c'est compliqué. Mais après, voilà, j'ai eu beaucoup récemment de contacts avec l'URSSAF, le Pôle emploi, etc. C'est des gens qui sont très gentils, qui ne te prennent pas de haut, qui t'expliquent les choses, qui essayent de t'aider. Là, par exemple, j'ai dû refaire la licence d'entrepreneur du spectacle. C'était un bordel. Et la dame était super patiente. Et chaque fois, elle m'envoyait des mails. Non, c'est pas ça. Fais comme si, fais comme ça. Je dis, ah, OK. Mais oui, il y a beaucoup d'argent qui circule. L'argent circule. L'État va venir. C'est pas s'il va venir, c'est quand il viendra. C'est pas une question de si. Donc, il faut se mettre dans les clous le plus vite possible. Ouais, parce que sinon, après, c'est comme à l'époque du Covid, les restaurateurs qui étaient dans les clous, qui déclaraient leurs recettes, etc., etc., ils ont eu les meilleures années de leur vie parce qu'ils ont eu des aides correspondantes à leur chiffre d'affaires. Les mecs, ils se foutaient plein d'argent dans les poches, qui faisaient tout au black et qui déclaraient 20% de ce qu'ils gagnaient. Bah, après, ils étaient, c'était compliqué, quoi.
Ouais, et puis faut, tu vois, tu as bien fait de dire que Pôle emploi, ils aident, France Travail, là. Je vois souvent des gens qui disent « Ah là là, je veux être intermittent, est-ce que quelqu'un s'y connaît ?» Ah oui, il y a quelqu'un qui s'y connaît, c'est un conseiller Pôle emploi. N'hésitez pas, vraiment, ils sont là pour ça, en particulier dans le secteur du spectacle. Ils prendront le temps de vous expliquer, de vous montrer exactement dans vos dossiers ce qu'il faut faire ou pas faire. Et c'est eux, votre interlocuteur privilégié. Vos potes, ils peuvent vous expliquer un peu, mais il n'y a rien de compliqué. Il faut un certain nombre de cachets, une certaine date anniversaire. Le reste, c'est avec Pôle emploi. Et vraiment, tout est facilité maintenant. C'est-à-dire que quand vous êtes employé par une production, il y a une déclaration qui est faite auprès de Pôle emploi et c'est déjà pré-rempli votre déclaration. Et c'est relativement récent ce système-là, mais c'est logique. Ça va dans le sens de la numérisation de l'administration et c'est parfait. Vous allez, on vous a dit, Squad m'a déclaré une date, machin m'a déclaré une date, machin m'a déclaré une date. Oui, je confirme, mais c'est fini.
Ben
Et
oui,
vous êtes
oui.
déclaré.
Ben oui. Sinon, pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a une chaîne YouTube très, très, très sympathique d'un gars très sympa qui s'appelle 507 heures. Et donc, il fait toute une série de vidéos qui expliquent
Super.
l'intermittence, les taux, comment renouveler, comment faire, comment c'est calculé, les histoires entre les taux décachés, le nombre d'heures, etc. Franchement, c'est très, très sympa et il donne vraiment l'information. C'est pas genre, oui, j'ai une formation, achète-la-moi. Non, il donne. Et après, si tu veux lui payer un café, fais-le. Ça l'évitera à moi de le faire.
500, voilà, 507 heures. Vous aurez le lien dans la description du podcast.
Ouais.
Allez, on a fait le tour un peu de tout ce qui est actu chaude comme ça. Maintenant, on va s'intéresser au stand-up en tant que stand-up et on va commencer par un truc qui est très cool. C'est le nouveau spectacle de Neil Brennan.
Ouais.
S'appelle Crazy Good. Et donc, c'est sa troisième livraison à Neil Brennan sur Netflix. Sa première, elle fera date. C'est le spectacle Free Mics, qui a, à mon sens, qui est un spectacle angulaire dans l'histoire du stand-up moderne. C'est en 2017 qu'il livre ça. Super, super. Ouais, c'était vraiment un spectacle intéressant puisqu'il décomposait le stand-up comme lui le voyait, c'est-à-dire en trois parties. Une partie qui est une partie d'histoire, une partie qui est une partie blague très courte, short, et une partie qui est vraiment du stand-up, c'est-à-dire plus anecdotique, mais pas de longues histoires, des petites histoires.
Ouais, et c'était très très fort. Three Mics était très très fort. C'est vraiment, oui, et tout le monde l'a reconnu. C'est ça, c'est drôle. Quand tu as un truc où tout le monde dans l'industrie s'est dit waouh,
Ouais.
franchement, chapeau.
Gros
C'est.
apport. Gros,
Ouais.
gros apport au stand-up. Puis il est revenu quelques années après. Donc, ça, c'est en 2022. Il revient avec Blocks, qui est un spectacle qui est moins concept dans l'absolu. C'est-à-dire, il n'y a pas sa séparation des trois micros, mais il y a quand même un petit twist intellectuel dans ce spectacle. Tu l'as vu, Blocks?
Non, mais je vais le voir.
Blocks, la particularité, c'est qu'il est mis en scène par Derek Delgujo, qui est magicien mentaliste.
Mais ouais.
Très fort, qui a un super spectacle que vous pouvez voir sur Disney Plus qui s'appelle Me and Myself ou un truc comme ça. Et là, le fait qu'il mette en scène, il y a vraiment une idée visuelle. C'est Neil Brennan qui manipule des petits objets qui sont dans son dos et qui posent sur des petites étagères. Et
OK.
ce qu'il fait, ça fait vraiment sens. Et il faut savoir que tout le spectacle a été rodé sans cet effet-là, et que c'est qu'à la fin que cette couche de subtilité a été rajoutée par la mise en scène. Donc, vous voyez que. Et c'est ce que je crois aussi, c'est qu'un spectacle peut très bien se créer d'une certaine façon et être exploité en vidéo d'une autre façon. Et c'est ce que prouve là Neil Brennan sur le nouveau spectacle, c'est exactement ça.
Ça, c'était très sympa comme il vient rajouter. Parce qu'avant, on séparait les médias de l'humour. Tu avais l'audio, le cinéma, la scène, le stand-up, le théâtre, le machin, la prose, le street art. Donc, tu avais tout ça très séparé. Et maintenant,
Ça converge.
oui, ça peut fusionner. Donc, il y a des parties que, si vous avez vu le spectacle, vous savez de quoi on parle. Sinon, c'est juste des effets vidéo qui sont ajoutés à la captation.
Mais qui
Mais
font sens. Par exemple, s'ils parlent
oui,
de
c'est ça.
réseaux sociaux, d'un coup, on le voit poup, en format téléphone, on le voit en format story, faire son truc, voire même avec un filtre ou deux.
Mais oui.
Et c'est juste, c'est comme si d'un film. Ça prend une dimension un peu plus filmique, c'est-à-dire il raconte une histoire de réseaux sociaux, donc il a les codes des réseaux sociaux à ce moment-là. Puis après, il raconte une histoire de pub avec, où il dit qu'il faudrait qu'il y ait un écran blanc, un écran noir avec des lettres blanches. Mais ça apparaît à l'écran, pourquoi? Parce que ça illustre, au lieu de l'illustrer en act-out, il l'illustre vraiment physiquement à l'écran.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça rajoute quelque chose sans enlever à l'expérience des gens qui sont dans la salle avec lui et qui ne le voient
Tout à
peut-être
fait.
pas. Donc, c'est tout à fait compréhensible pour les gens qui sont dans la salle, mais ce rajout pour les gens qui regardent sur Netflix, c'est juste plus sympa, quoi. Il y a rien de comment dire, de mauvais avec ça. J'ai trouvé
C'est
ça très
plus.
sympa.
Le dernier à avoir fait ça pour moi, c'était Hannibal Buress qui avait ça sur son spectacle à Miami et qui a rajouté des petits effets qui faisaient sens dans le spectacle. Et, mais tu n'étais pas obligé de les avoir pour apprécier les blagues, mais quand tu les avais en vidéo, ça ajoutait un petit truc.
Ouais.
Là,
Mais
c'est exactement le cas.
ça, et ça montre aussi que voilà les codes, tout ça, c'est en train d'évoluer devant nous, et ça, c'est très sympa. Parce que quand tu fais un special Netflix, y en a pas mal qui font après des références au fait d'être sur Netflix, etc., machin. Donc, c'est à consommer en deux temps. Il sait qu'il fait le truc sur scène, mais il sait que c'est capté. Et donc, il y a des clins d'œil aux gens qui sont chez eux déjà, alors que tu peux imaginer que quand tu es sur scène, tu es uniquement avec ces gens-là à ce moment-là, il n'y a rien d'autre qui existe. Mais c'est intéressant, c'est intelligent surtout. Et voilà, moi j'ai trouvé très 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 sympa le spectacle.
Tu as vu dans les producteurs exécutifs qu'il y a
Non, parce que puisque je ne suis pas dessus.
Bill
Donc
Burr.
c'est. Ah, Bill Burr, ok. Alors, moi j'ai noté quelques trucs.
Allez.
Alors, il y a des observations qui sont très très fines. Après, bon, sans trop spoiler, il dit que le soleil est le flic des blancs, parce que bon, les noirs, etc., les blancs, donc ça, c'est, je pense, très très finement observé.
Super analogie, donc ça c'est une blague
Ah
relative
ouais.
beaucoup.
C'est
Et
ça, mais c'est.
souvent, je trouve que ça, pour moi, ces images font mouche à chaque fois. C'est-à-dire, c'est vraiment, il n'y en a pas une où je me suis dit, ah non, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'à chaque fois, et c'est pas un mec qui essaie de me convaincre, c'est juste quand il fait sa démonstration, je suis là, je fais, ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, mais c'est ça, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a un regard, et c'est ce qui est essentiel pour que l'humour puisse exister, c'est deux interprétations d'une même chose, ou qu'une chose qui peut être interprétée d'au moins deux façons différentes. Et là, il fait ça, et tu dis, ouais, bah oui, ah oui, ça, c'est tout à fait juste. Après, bon, j'avais noté ce mix de médias, c'était très cool. La blague du Dalai Lama, c'était mortelle. Le Dalai Lama qui roule des pelles à un enfant de 8 ans.
Ouais.
Je savais pas que le Dalai Lama était catholique. Non, putain, ça m'a tué. C'était très drôle. Voilà. Les observations sur le viol, ça c'est très juste. Il dit que dans les films, le meurtre est banal, le viol c'est tabou.
Ouais.
Et il dit, mais c'est un truc de fou. Et il échange quelques titres de films. Il enlève le mot kill, il met le mot rape à la place. Genre, au lieu de Kill Bill, Viol Bill. Et alors que kill, c'est comme quand tu es des gens au cinéma, ça va. Tuer un chien, tu peux pas. Tu
Bah,
vois, c'est
il dit
limite
surtout,
bizarre.
je connais des gens qui sont remis d'un viol, personne qui s'est remis d'un meurtre.
Ben oui, c'est ça. Et ça, c'est
Et
waouh.
la blague, c'est imagine John Wick si on avait violé son chien.
Ah oui, et il va les violer un par un. Et Jésus aussi, vous avez, vous, genre il ressuscite, il dit, vous m'avez tué, vous auriez dû me violer. C'est très drôle.
Ouais,
Drôle dans le
c'est
sens.
pas mal ça, hein. C'est
Ben
vraiment
oui.
fort comme concept.
Mais ce qui est drôle dans l'humour, c'est que, bien sûr que, et c'est là qu'il faut comprendre les choses, ce n'est pas, on rigole pas du viol. C'est ça, c'est mentionné, mais c'est juste une réalité alternative. Avec laquelle on peut rigoler, mais c'est inoffensif et c'est très, moi j'ai trouvé très très drôle comme truc. Après, une image qui m'a vraiment beaucoup plu, déjà c'est les clowns. C'est quand il dit que maintenant les humoristes, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent, etc., parce que la société regarde. Et quand il fait le truc, il dit, oui, et que pensent les clowns de tout ça? Genre, nous on est là à faire des blagues et Et la
Ouais.
société vient voir, ah, mais les clowns, ah, ils disent ça, mais c'est n'importe quoi. Mais on est les clowns. On est les clowns, on est là pour faire rire. Voilà, qu'est-ce que.
C'est vrai que tu interroges plus sur la société qui se dit pour c'est marrant, il arrive à mettre le doigt sur un truc, c'est pourquoi la société d'un coup veut l'avis des gens les moins utiles sur la question.
Ben oui, c'est ça. C'est ça. Et George Carlin, il disait ça, mais quand quelqu'un lui posait des questions politiques ou quoi, il disait, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis humoriste, moi. Moi, je fais des blagues. Qu'est-ce que tu viens me parler de la géopolitique, machin? Qu'est-ce que tu veux? C'est un peu comme Tarantino quand on lui demande à propos de la violence dans ses films, etc. Il leur dit, mais allez demander aux gens qui regardent le film. Venez pas me demander à moi. Et l'autre, ah, mais il y a des gens. Et Tarantino qui dit, non, je ne suis pas ton singe. Je vais pas danser pour toi. Parce que le journaliste fait parler. Après, il va dire, ah, qu'est-ce que vous en pensez? des déclarations de Tarantino, ils demandent ça à quelqu'un d'autre, l'autre répond, et ça fait avancer leur schmilblick à eux, aux journalistes. Et bon, ça c'est...
Après, en blague de fou qu'il a sorti, là, ouais. Neil Brennan, il a toute une face sur le fait que si tu veux être fort, si tu veux être fort dans un domaine, que ce soit le sport, l'humour ou quoi, tu dois être soit drogué, soit psychopathe.
Ouais. Ça, j'avais noté ça comme le pouvoir de la prémisse. Parce qu'on sait bien que les artistes ont des tendances névrotiques, c'est des traits de personnalité qui sont accrus chez les artistes. C'est l'obsession, le truc, et quand tu vas voir cette prémisse-là, il dit que tous les gens qui sont au sommet de quoi que ce soit, c'est des fous.
Ouais.
Et quand tu penses, oui, parce que pour être aussi bon ou aussi fort ou aussi dévoué à un truc, il faut que tu sacrifies tout le reste. Tu veux être Nadal, oui, mais Nadal, c'est depuis 7 ans, et c'est que ça. Et après, il donne des exemples, et c'est très parlant. Bon, il y a des exemples qu'on connaît pas, mais c'est très, très pertinent.
Jordan, c'est incroyable, le fait que dans le documentaire sur Jordan, le mec qui est multimillionnaire, il a qu'une chaise, il a qu'un fauteuil dans son manoir. Là, il a un truc vraiment... C'est la mise en scène, c'est une mise en scène de vrai psychopathe, pour le coup.
Ah oui, oui.
Tiger Woods qui fait que jouer au golf et baiser, et que dès le moment où tu enlèves baiser, il ne sait plus jouer au golf, c'est génial. Et moi, je me suis beaucoup posé la question récemment, justement, de qu'est-ce que j'ai sacrifié déjà, et qu'est-ce que je suis prêt encore à sacrifier, qu'est-ce que, tu vois, il y a vraiment une notion de sacrifice. Alors, je ne sais pas si c'est une construction mentale, mais je me dis... Ah ouais, j'ai déjà mis tout ça dans la balance du stand-up et je dois encore mettre ça, ça et ça. Tu vois, je suis en tournée dans des endroits improbables et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre à quel point ça coûte la tournée, à quel point c'est dur à dormir chez soi, à quel point c'est dur de faire dans la salle des fêtes, de passer la journée d'un appart qui n'est pas le tien ou dans pas d'appart, d'être dans une 106, de passer d'une... Même à haut niveau, une tournée, c'est une tournée. C'est tant pis, oui, tu as un meilleur logement, tu as un meilleur truc, mais c'est dur.
La solitude est la même.
La solitude est extrême. Tu n'es pas avec tes enfants, ton enfant. Et mentalement, c'est pour ça que je vois les gens qui disent « Je fais stand-up et tout. » Ouais, tu feras stand-up quand tu auras fait toutes tes salles des fêtes. Tu vas voir ce que c'est. Tu vas voir ce que c'est faire stand-up quand tu auras fait ce type de tournée. Tu vas comprendre ta douleur. Quand le repas du soir, c'est un croque-monsieur parce que c'est une... Monsieur Fritz, ils comprennent pas que toi tu n'as pas vu de légumes depuis 15 jours.
Ben oui, c'est ça. C'est
une salade, ça aurait tellement bien d'avoir une salade une fois de temps en temps en repas. Quoi.
Ça me fait penser à une fois on a joué dans un petit. Et d'ailleurs, je suis choqué. Je suis choqué, non, je suis fier parce que j'ai tellement choqué ces gens-là qu'ils ne voulaient plus, même plus me parler. Oh. Tellement je les ai choqués. Je leur ai parlé de ma série de livres que j'ai publié sur Amazon. D'ailleurs, que je vous conseille tous à acheter. Pour voir si ça marche. Alors, j'ai créé une série, j'ai une quarantaine de livres, de faux livres publiés sur Amazon.
C'est trop drôle.
Qui sont des blagues. Et il y en a une série, c'est les astuces de grand-mère. Et j'ai une astuce de grand-mère pour mincir en mangeant ses morts. Bon, ça c'est un peu cliché. Mais j'en ai pour une autofellation sans ablation de côte, pour une double pénétration sans inconvénient.
Et la bigamie aussi, tu as un truc, tu as la bigamie.
Ah oui, la bigamie. Mais ça, c'est la... Et je leur ai parlé de ça. Et ça les a choqués. Et plus jamais ils voulaient me parler. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'il y avait un humoriste magicien, musulman. On est là, on fait le truc, machin. Bon, moi, je les ai choqués et tout. Et à la fin, il y a la dame qui vient, qui nous fait, qui nous donne le repas. Et le repas, c'est un plateau de charcutes. Et c'était très drôle. Elle arrive, elle pose la charcute devant le magicien. Il lui dit, non, merci, je ne mange pas de porc. Elle a fait une tête, mais une tête. C'est dommage que le podcast ne soit pas en vidéo. Mais charmé. Elle est repartie avec son assiette. Mais genre, je ne sais pas ce qu'elle disait, mais c'était, pour elle, c'était dégueulasse que le mec il vienne imposer son truc de ne pas manger de porc, alors qu'elle a fait une assiette de charcute. Merde, il n'aurait pas pu manger la charcute et fermer sa gueule. C'était très, très drôle.
À la tournée, c'est les gens qui ne comprennent pas que tu n'as pas envie de jouer devant des caisses de vin, que tu vois, que tu as envie d'être un peu éclairé, un peu sonorisé, ça arrive. Hein.
Mais oui.
Mais voilà, il faut s'en rendre compte que la vie d'artiste, ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on sacrifie pour être un bon artiste? Des fois, On sacrifie beaucoup de choses et Neil Brennan, il a mis le doigt sur plein d'exemples fous. Il dit que Richard Pryor était drogué, que
Ah oui.
Taylor Tomlinson est bipolaire.
Ben oui.
Et il a cette phrase, moi, qui m'a éclaté, c'est qu'il dit que Dieu, en gros, il a, comme dans un jeu vidéo, il a 100 points à répartir. Et que des fois, s'il met beaucoup d'un côté, il reste peu pour le reste. Par exemple,
Ben oui.
Woody Allen, il a tout mis dans la réalisation de films de comédie et rien dans le fait de pas baiser sa famille.
C'est ça. Ben, Richard Pryor a pris feu carrément. Tellement il était. Non, mais et c'est intéressant quand tu vois quand tu lis les autobiographies ou les biographies de ces gens-là, tu dis waouh. Mais Stephen Fry qui prenait de la coke pour se calmer, et parce qu'il est bipolaire, et c'est waouh, c'est vrai.
Mitchell Berg, je sais pas si tu connais Mitchell Berg, toi?
Comme ça, non, mais peut-être que je connais.
Alors, Mitchell
Là-dedans.
Berg, c'est un mec, il a un look marrant, il a toujours des lunettes de soleil, les cheveux longs, et c'est un gars qui faisait beaucoup de one-line, des one-line vraiment de haut niveau, qui, pour
Oui,
moi, est une référence en comédie. En fait, il était très, très addict, très drogué. Il montait sur scène, il tremblait, il n'était pas bien, il avait le trac tout le temps. Et un de ses passages les plus légendaires, tu vois, c'est genre un stand-up de 40 minutes où il est incroyable. Et vraiment, c'est le truc, un des meilleurs passages que tu puisses voir. Tu te dis, putain, c'est un génie. Et en fait, c'est le passage monté. Mais ce qu'il ne montre pas, c'est les 20 minutes où il est assis, où il est en train de planter les choses, se dire que ça ne marche pas. C'est pas après, il se ressaisit, mais il y avait vraiment sa femme à témoigner sur le fait que ce jour-là, c'était une catastrophe et que le montage sauve le tout et que voilà. Mais il y a vraiment ce côté, on dirait qu'il y a 100 points à répartir et que ceux qui ont beaucoup de comédie, ben, des fois, ils ont un peu des lacunes ailleurs et qu'il
Mais
faut
oui,
accepter.
mais
Mais
oui.
ça ne veut pas dire qu'il faut. Moi, je dis, il ne faut pas s'en glorifier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de oui, non, mais j'ai de la comédie et à côté de ça, je ne suis pas poli ou je suis pas si. Non, mais apprends à être poli. Apprends à être respectueux des gens, ça s'apprend, t'inquiète pas. Et tu perdras rien en comédie, c'est que des points en plus.
Mais
Dans un
oui,
jeu
c'est ça.
vidéo, quand tu progresses, on ne t'enlève pas des points d'un côté pour en mettre de l'autre. Si on te rajoute de l'agilité, tu perds pas de la force.
Mais oui, c'est ça. Oui, parce que quand tu vois Seinfeld, c'est pas un mec qui soit. Il a ses particularités. Il peut travailler 2 ans sur une blague. Il a ses fixettes. C'est juste être très, très particulier dans certains trucs. Après, t'es pas obligé de te détruire. Tu vois, c'est genre rockstar, genre Kurt Cobain, ok. Mais quand tu vas voir le gars des Dire Straits, il continue à jouer et c'est waouh, Eric Clapton, et voilà, ils sont vieux, mais alors, j'étais pas obligé d'exploser en vol. C'est et le fait que tu sois un trou du cul n'est pas n'est pas un atout. C'est ça, c'est pas dire ouais, mais je suis un artiste.
Et il faut être connecté, je vais reprendre l'exemple de Steinfeld. Je pense qu'on réalise pas à quel point ces gens-là sont connectés à la comédie en tant que comédie. Ils sont pas connectés à l'argent, ils sont pas connectés à la fame, ils sont connectés à la comédie en tant que comédie. Ils se définissent comme comédiens, ils font de la comédie. Leurs pères, ce sont des comédiens qui font de la comédie. Et je vous assure que si on pensait tous comme ça, on s'en porterait tellement mieux. Si tous on
Ben
était là en disant, nous, on est là pour la meilleure blague, on est là pour avoir le meilleur sketch, le meilleur spectacle. Encore une fois, on n'est pas là pour les abonnés, on n'est pas là pour la fame. Si on restait connecté à cette idée qu'on fait de la comédie, qu'on vit une époque formidable où on fréquente des comédiens, moi, je suis heureux chaque jour de fréquenter les gens les plus drôles au monde.
bah
Ou en tout
oui,
cas, les
moi
plus
aussi.
drôles de France. Voilà.
Ouais, voilà. Et déjà, t'es calé, t'es avec moi. Mais
Pourquoi pas,
moi,
pourquoi pas.
le truc, voilà, mon seul rêve de succès dans le milieu, c'est de pouvoir être à table avec des gens très drôles. C'est ça. Ouais, c'était
Ouais.
mignon.
Et de partager des. Moi, quand il arrive un truc, récemment, j'ai eu un accident de voiture. Là, j'ai eu un gros accident de voiture il y a une semaine. Mais un truc de fou, j'ai éclaté. Je me suis pris un semi-remorque. La voiture a explosé, moi, trois tours.
On fait moins de mariage, on fait moins de blagues. Ah, semi-remorque, c'est la moitié d'une remorque.
Et
Alors,
ben
c'est
voilà.
plus grand.
C'est sans
Plus de
manger.
mariage.
Sans manger.
Aïe, aïe, aïe.
Et mon premier réflexe, c'est j'envoie. J'étais en train, juste avant de blaguer avec un humoriste, un bon humoriste, on va dire. Un très bon humoriste. Et j'envoie ça. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est Chè, bien fait, tiens, pour ta gueule et tout.
Ben
Je
oui.
me dis, mais il n'y a qu'un humoriste pour te faire ça alors que tu viens de dire que tu viens de te faire éclater par un semi-remorque. Mais ce message, je l'ai réécouté, ça me fait tellement rire que c'est son premier réflexe. Ben non, mais je vais traduire ça en blague.
Bah oui, ça me fait penser. Attends, je vais essayer de trouver le mail de deux copains. Donc, c'est une et un gars. Donc, il devait m'envoyer son intro pour le spectacle ou quoi. Et il me dit, ah, excuse-moi, c'est que ma copine s'est pris un camion. Et elle me fait, salut Scott, désolé hier, j'ai dû bouger en urgence. Tout va bien, rien de cassé. Mais Perrine a eu un accident, sa Twingo contre un camion poids lourd. Indemne et miraculé, tout va bien. Bref, voilà l'affiche pour le spectacle. C'est très drôle. Et là, on était là, ah ouais, tu me dis ça comme ça. Genre, oui, non, j'ai pris un camion, mais tout va bien, ça va.
Pareil, écoute, je prends le camion.
L'important, c'est l'affiche.
Parce que la vie, ça, tu sais quoi, c'est fou, c'est que la vie s'arrête pas. Et c'est
Ah
ça,
oui,
le
ça.
grand leçon, c'est que la vie s'arrête. Tu peux être Scott, tu peux être en tournée, tu peux être malheureux, tu peux être heureux, la vie ne s'arrête pas. Les gens continuent à avancer et c'est ça qu'il faut accepter. Et tu peux ne pas poster pendant 20 ans sur Instagram, ça ne veut pas dire que tu es mort. La
Ben,
vie
c'est sûr.
continue et. C'est pour ça que tous les trucs, moi je suis très méfiant. Quand on me dit il faut que je poste une fois par jour, une fois par semaine, non, il faut rien. Il faut rien. Tu as envie de poster une fois par jour, tu crois qu'il faut poster, c'est ton problème. Mais moi, ne me l'impose pas. Il n'y a pas de il faut. C'est ta croyance à toi, fais ta vie. Et si tu poses pas, ça va être trop bizarre demain matin. Tu vas halluciner que le soleil va se lever quand même. Hein.
Ben oui, moi j'ai réfléchi beaucoup à ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Et là, j'ai pas grand-chose à dire, donc je ferme ma gueule. C'est un peu ça. C'est voilà. Parce que si sur le moment j'ai rien à dire au réseau, bah je dis rien. Parce que sinon c'est juste, hey, regarde, j'existe, j'existe, hein, j'existe. Ouais, mais t'as quelque chose à dire aussi, juste pour que je te
Pourquoi
valide.
pas? Non, mais pourquoi pas
Oui.
si la personne ça lui fait, mais moi je sens pas l'obligation ni d'émettre ni de recevoir ces informations-là.
Voilà.
Donc soyez en paix avec ça. On conclut sur Neil Brennan pour vous dire que Crazy Good, vraiment très bon spectacle, c'est une super livraison. Le décor est joli, le propos est intéressant. Il s'inscrit, alors il fait un truc qui est vraiment intéressant. C'est qu'au début, il rappelle ses deux précédents shows.
Ouais.
Et pour moi, c'est vraiment une façon de mettre en scène, de dire, hey, écoutez les gars, je suis en train de construire une œuvre. Une œuvre qui
Oui, c'est
compte,
ça.
une œuvre cohérente. Il y a des inserts des shows précédents. Et je pense que ce n'est pas le hasard. Allez, je ne vais pas faire le devin, mais je me dis, peut-être que dans 10-15 ans, on s'apercevra que Neil Brennan, il a eu une œuvre majeure.
Ouais. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Après, j'ai beaucoup apprécié un détail, le décor change de couleur.
Ouais?
Ah oui. Et là, c'est. Ah ouais. Il y a un truc. Et justement, le scénario, c'est comme des. Je sais pas si c'est un réseau neuronal ou un truc comme ça. Quand je l'ai vu, ça me fait penser. À quoi ça me fait penser et tout. Et c'est pas fait par hasard. C'est
Pas
pas
du
fait
tout
par
fait par hasard.
hasard. Et franchement, c'est très, très cool. Et après, il y a l'image de l'hologramme. Il parle des patineurs, etc. Dire qu'ils sont en souffrance. Et quand tu vois quelqu'un faire du patinage artistique. Et que les filles commencent à tourner sur elles-mêmes. Et au bout d'un moment, il devient un hologramme. Et là, tu dis, waouh, putain, mais
C'est puissant.
quel. Voilà, c'est génial.
Ouais,
C'est
très
génial.
puissant.
Tu dis, waouh, c'est vrai. Et je l'ai vu, et je l'ai vu plein de fois, mais jamais j'ai rapproché ces deux trucs. Et là, il le fait, et c'est tellement évident. Des fois, tu es jaloux de... C'est tellement évident, comment ça se fait que je n'ai pas trouvé ça? Je ne me suis pas dit ça. Et c'était, voilà, pour moi, c'est des petites images comme ça. C'est au même niveau que la blague de Jeff Panaclock, se faire bouffer les couilles. C'est juste, non mais cet enchaînement de mots, pour moi, ça, dans ma tête, ça n'a jamais été dit dans l'histoire de
Bon,
l'humanité. Et c'est génial. Mais bon.
alors, on va revenir sur Jeff, mais juste Neil Brennan, si vous voulez voir ses spectacles, il a sorti en 2017 Free Mice, en 2022 Blocks, et là en 2024 Crazy Good. Donc, il accélère le rythme. Moi, j'avais peur qu'il souffre justement de cette accélération parce que des fois, on fait des moins bonnes livraisons. C'est pas le cas. Au contraire, je trouve qu'il prend un bon rythme de croisière. Si vous voulez découvrir Neil Brennan un peu plus intimement, en 2018, j'ai sorti un épisode de Comedians in Cars Getting Coffee animé par Jerry Seinfeld, qui est très chouette, qui s'appelle Red Bottom Shoes et Quals Fantastic Babies. Donc vraiment, on le voit dans l'intimité et on voit que le mec est cool, il a la tête sur les épaules. C'est un gars qui revient de loin. Si vous vous intéressez à son parcours, vous verrez que ben, la dépression. Là, on voit vraiment le comédien qui a l'air sorti de la dépression et des affres des troubles psychiques. Il s'en est sorti à grand renfort d'ayahuasca, de traitements expérimentaux, de MDR, de choses comme ça. Mais il s'en est sorti en direct. Il est heureux. On voit qu'on a un mec plus heureux que jamais. Le seul petit bémol que je mets, c'est pas moi qui l'ai observé, c'est un camarade qui m'a dit, putain, mais c'est pas un comédien. Tu vois, il y a vraiment, on a vraiment l'impression qu'on n'a pas un comédien en face, qu'on a juste un super cerveau, mais qu'il n'y a pas la comédie.
À la base, c'est un auteur. C'était Chappelle Show. À la base, c'est un auteur. Et oui.
Moi, ça ne me dérange pas parce que je pourrais lire le spectacle, je l'apprécierais autant. Mais c'est vrai que la plus-value de son jeu, elle n'est pas énorme. Voilà, mais c'est aussi le stand-up que je... Moi, je le décris facilement, mais ça peut être rebutant pour pas mal de gens, le fait qu'il n'y ait pas cette force comique.
Ah, mais après, moi, je préfère quelqu'un, justement, qui est lui-même et que je... Plutôt qu'entendre le rythme ou
Tout à fait.
Le truc des autres. Parce que là, c'est lui et voilà, c'est lui, quoi. Et après, un autre truc que j'ai noté, c'est que les transitions sont tellement bien faites que tu n'en vois aucune. Et ça, c'est la menuiserie de l'écriture. C'est le truc qui coûte le plus, c'est de cacher tout ce que tu as écrit. Et il le fait, c'est magistral. Tu ne le vois pas. C'est un truc, ah, et parlons de ça, ta 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 ta. Non, c'est vraiment, c'est
élégant,
c'est
très élégant.
C'est très élégant. C'est un truc, tu es là, waouh. C'est vraiment, il ne dit pas sans transition, c'est la transition.
Ouais.
Alors que des fois, on s'emmerde à dire sans transition, alors que ça sert à rien.
C'est une transition sans transition.
Oui, c'est ça. Ou des fois, écrire des transitions qui sont pourries. Dans tous les cas, des fois, c'est chiant. Mais là, franchement, c'est très élégant. C'est waouh.
Je permets de vous parler de Jeff Panaclock qui a fait son Bercy le 10 avril là, 2024. C'était vraiment une date clé pour lui. On savait que voilà qu'il attendait beaucoup la date, mais j'espère que ça lui apportait ce qu'il attendait. C'était super émouvant de le voir. Nous, je suis allé avec mon fils. On tenait de là pour plein de raisons, parce que voilà, c'est une expérience de fou, le spectacle, et qu'on voulait soutenir en tant que Jeff. Mais c'était trop bien. Moi, je me suis éclaté. Je passais une bonne soirée. C'était vraiment un spectacle qui se prêtait à Bercy. C'est-à-dire, c'est un gros show. Et c'est même, ça m'a même interrogé sur est-ce que... Tu vois, en tant que stand-upper, je vois que c'est juste ça me dépasse, tu vois, ces jauges-là. Je me dis, non, là, c'est la jauge où on n'y arrive plus, nous. Alors que lui, comme c'est un gros show, tu as les écrans, tout est fait, les chansons, tout est fait pour passer un bon moment. C'est vraiment... Il a un spectacle de Zénith, ça se voit, c'est pensé pour ça et ça marche trop bien en Zénith. Voilà, mais super émouvant et félicitations à lui pour Bercy. C'était une date que je pense qu'il restera gravée pour lui et pour les spectateurs.
Mais toi, est-ce que tu es fier? Parce que toi, tu as beaucoup participé à ce...
J'ai parlé de l'extérieur, juste... Oui, moi, je sais pas, c'est même pas que je suis fier, moi, j'étais stressé.
Ouais.
Et j'étais très stressé pour lui parce qu'au fur et à mesure, tu absorbes un peu,
Mais tu l'as accompagné pas mal pour tout ça, donc tu étais là à voir les coulisses, quoi.
Oui, j'ai accompagné, mais en tant que pote, pas en tant que co-auteur ou quoi. C'est juste en tant que pote, et voilà. Et voilà, on a partagé ça en tant que pote, et c'était dur parce que tu vois un mec qui est perfectionniste, qui veut le meilleur spectacle, qui se remet en question avant de faire ces dates-là, qui rajoute un personnage, qui rajoute un style d'humour. Et voilà, et c'est juste, moi j'avais le stress pour lui. Et c'est marrant de partager le stress de quelqu'un, et après, quand tu vois que ça roule, tu te dis, ah oui, d'accord, ça.
C'est bon. Je suis con, moi.
Ouais, et surtout, tu vois l'entourage positif, le compositeur, le metteur en scène, les chorégraphes, tu vois tout ça, le mec qui fait les marionnettes, le mec qui fait les décors, tout le monde est remercié. Tu te dis, oui, d'accord, c'est une grande équipe pour faire un grand spectacle. Donc, c'est une leçon, hein. C'est juste qu'à un niveau de professionnalisme extrême. Donc, je suis content d'avoir vu ça. Bravo à lui, Paris réussi. Est-ce qu'on passe au spectacle suivant? Est-ce que tu l'as vu, toi, Jimmy Carr?
Non, mais je l'aime beaucoup.
Ah, alors tu vas le voir, je vais à peine en parler, alors si tu ne l'as pas encore vu, mais que tu l'aimes beaucoup, il vient sortir un spectacle qui s'appelle Natural Born Killer.
Mm-hmm.
Il est, donc ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas sorti ce spectacle.
Oui.
En général, c'est son rythme, c'est un gars qui livre un spectacle tous les 2-3 ans,
oui.
Depuis 2010.
C'est marrant, parce qu'il a commencé dans le stand-up et après il s'est rendu compte que son rêve était d'être animateur télé. Et c'est ça, il est, il est, il est, Il est très bon en animateur télé. Il a des émissions et tout. Un des meilleurs, l'une des meilleures personnes que j'ai vues en comédie était souvent son chroniqueur ou invité, ou j'étais avec lui dans cette émission. Et surtout, il a beaucoup de problèmes. Genre, chaque spectacle, il met les pieds dans le plat et il a des problèmes. Est-ce qu'il a eu des problèmes?
Oui, il a eu des. Bah, le précédent spectacle a été problématique parce qu'il faisait des blagues sur l'Holocauste.
Ouais. Pas
Bon,
Ryanair, hein, l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale.
Oh. Je sais pas si on peut la garder au montage, cette blague-là.
C'est pas l'Holocauste, c'est le Holocauste. C'est...
C'est bien Scott Films qui a dit la blague.
Voilà, c'est ça. Coupe, coupe. C'est bien.
Donc, il avait cette blague. Je vais essayer de vous la traduire, mais elle est un peu particulière. Quand les gens parlent de l'Holocauste, ils parlent de la tragédie, de l'horreur de 6 millions de Juifs qui sont morts dans la machine de guerre nazie. Mais ils ne parlent jamais des centaines de gitans qui ont été tués par les nazis. Personne ne parle jamais d'eux, parce que personne ne veut parler du truc positif de l'Holocauste.
Ce qui est très drôle.
C'est drôle quand je la lis. C'est drôle, donc gros problématique avec les gens du voyage, tout ça. Bon, ça c'est une chose. Et il est obligé de l'adresser, mais il l'adresse pas lui. En fait, il n'est pas lourd comme a été Ricky Gervais. Il était un peu lourd, moi je trouve, sur son dernier spectacle, sur la censure, le droit à dire. Lui, il dit un truc qui est très, 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 très intéressant. Il dit, voilà, prochaine fois qu'on me dit... Il y a un problème sur une blague et tout, on va aller au trait. Je vais aller, je vais prendre on va faire une conférence de presse et je vais dire, je suis vraiment désolé de ce que j'ai dit. Et les gens vont me dire, ah, vous n'avez pas l'air sincère, vous n'avez pas l'air de penser ce que vous dites. Et fait donc on est d'accord que je peux dire des choses sans les penser.
Ah, bien, 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 bien.
Et alors une one line, il plie le truc en disant, hey, je suis comédien les gars, je dis des choses que je ne pense pas. Et voyez-moi à l'orée de la comédie, ne me voyez pas à l'orée d'un message, je suis un bouffon.
Ben oui, mais lui, c'est ça. Et en plus, il a fait 25 ans de carrière avec des blagues de bites. Et ça, c'est vraiment très drôle parce qu'il y va à fond. Mais ça me fait penser à The Modest Proposal. Et ça, c'est un truc de satire de 1789, où il y avait beaucoup d'enfants SDF en Irlande, et Jonathan Swift, il a proposé qu'on les mange. Il a écrit tout un papier comme quoi bah, il y a beaucoup d'enfants et on peut les manger. Bah, si on les mange, ça fait un apport de viande pour les familles anglaises, etc. Machin. Et bien sûr, ça a eu le même effet. Ça fait un gros scandale. Et des gens se disent, mais comment on peut dire qu'on va manger des enfants SDF? Et au bout d'un moment, on commence à se dire, ah oui, mais attends, mais il y a des enfants SDF? Et là, pareil, ils ont cette blague. C'est quand il dit, on parle des Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale, donc tout ça. Mais justement, on ne parle pas des autres minorités, on ne parle pas des homosexuels, on ne parle pas. Les homosexuels, par exemple, si je ne dis pas de conneries, ont été libérés après les Juifs. Les Juifs ont pu. Voilà, ils ont été sauvés, entre guillemets, du truc. Mais les homosexuels, ils sont restés encore, je ne sais pas combien de temps. C'était des trucs. C'est des trucs affreux. Et c'est vrai qu'il y a un truc marquant qu'on en retient et on en parle. Mais là, moi, j'avais jamais même imaginé qu'il y avait des gitans dans les camps de concentration et tout ça. Et
Et la
grâce à cette
persécution
blague.
originale.
Ah oui, c'est ça. Mais, et là, ah ouais. Et c'est ça que je retiens, moi. C'est pas, ah, c'est des trucs positifs, ça, c'est la blague. Mais l'information avant, tu dis, ah ouais, il y avait ça. Donc bon, c'est.
En tout cas, voilà, il a eu des faux soucis à ce niveau-là. Donc, il adresse ça, le spectacle, bah, c'est vraiment du Jimmy Carr, c'est des petites blagues. Ouais, je vais te dire, mais je ne suis pas le seul à avoir ressenti, Elodie Arnoux qui regarde le spectacle à peu près en même temps que moi. Le problème, c'est qu'on vient de voir Neil Brennan qui avait un vrai propos qui était très fort, et là, ça me semblait fade. Voilà, par rapport à Neil Brennan, il y avait un côté fade, il y a un côté que les One Night, oui, il est fort, oui, il y a quelques trucs qui font mouche, mais c'est moins. J'étais moins pris dedans, j'ai moins hésité à l'arrêter, alors que l'autre, je voulais aller au bout là. Ouais, dans ce que je vais faire, connaissant la puissance de Jimmy Carr, je vais juste laisser passer un petit bout de temps pour voir la seconde partie du spectacle. Parce que là, je me dis, non, je compare un truc où il ne faut pas comparer.
Ah oui,
Et
oui,
surtout, il y a un lien entre Jimmy Carr et Neil Brennan qu'on ne soupçonne pas. C'est que c'est l'ayahuasca.
N'ayahuasca.
Ouais, tu sais, c'est la drogue que prennent les Indiens d'Amazonie. Pour avancer à un certain niveau de connaissance, ils ont ça, ils en ont parlé ensemble dans un podcast et ils ont eu ça en commun, ils se connaissent, quoi. Je veux dire, c'est des contemporains les deux.
Ouais.
Parce que Jimmy Carr a aussi ouvert pour. Il faisait partie de l'équipe de Chappelle en particulier qui faisait les gros stades et tout. Donc tu vois, c'est un peu la même équipe et j'ai pas envie de les comparer parce qu'au final, ils font presque pas le même sport, quoi.
Ben oui, c'est différent. Oui, lui, c'est vraiment. Et c'est. Je pense que Jimmy Carr, il a un côté cathartique dans ce qu'il fait. C'est un peu comme Bigard quand il faisait des trucs, quand il était plus au sommet de son art. C'est OK, on va rire. C'est inconséquent. Il n'y a pas de problème. On va rire. On va rire. Voilà. Et oui, j'apporte rien. Oui, je vais pas dire quelque chose sur l'âme humaine, mais ça va. Il y a des philosophes aussi pour ça. Donc c'est un peu, moi je pense que pour les débutants, je préfère dire aux débutants que je côtoie, ok, va plus vers toi-même, va chercher en toi, parce que ce que tu as à dire sur les fonctionnaires, on s'en bat les couilles. Toi, qu'est-ce que toi tu vis toi? Comment tu mélanges ce qu'on te dit avec ce que tu vis toi? Parce que les grands artistes, c'est leur carrière, c'est souvent un chemin vers soi. Et plus ils avancent, plus ils vont vers eux-mêmes.
La
Et donc,
vérité.
oui, c'est ça. Donc, si tu peux aller direct, là, tu vas t'économiser 5-10 ans de superficialité.
Mais si vous
Mais.
devez passer par superficialité, passez-y. Là, j'ai un camarade quoi, sur les réseaux, fidèle auditeur du podcast et tout, qui me dit, tiens, là, j'ai des blagues sur les nez, sur ci et tout. Je dis, écoute, moi, spontanément, je ne crois pas trop, j'aime pas trop ces blagues sur les nez, je vois pas ce que ça apporte et tout, mais c'est ton chemin, fais-le. Vas-y. Fais à fond tes blagues sur les nains et un jour, tu en reviendras et tu te diras, moi, j'avais rien de très pertinent à dire.
Mais oui, c'est ça.
Alors qu'à contrario, là, moi, je suis allé dans un café, je sais peut-être qu'il y en a à Toulouse, je suis allé dans un truc à Tours qui s'appelle le Café Joyeux. C'est un café tenu par des gens qui sont atteints de trisomie 21.
Non, non.
Et tu
Parce
sais,
que.
ça m'a vraiment bouleversé. C'est-à-dire, je suis rentré à un café, j'ai eu un choc, mais c'est incroyable, je vois jamais ces gens et là, ils sont là. Ils font des tâches, ils les font, mais d'une façon qui est différente de ce que moi je ferais. Et après, je me suis dit, OK, maintenant j'ai vu ça, comment je le traduis en blague et qu'est-ce que ça apporte? Et la première blague qui m'est venue, c'est, tiens, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont valides. Je me dis, mais tiens, quand tu es embauché dans ce café et que tu es valide, ça dit quoi sur toi? Et ouais, ma réflexion, j'ai essayé d'élever le truc, mais dire, OK. Pourquoi ça me choque que ces gens atteints de trisomie 21, ils me servent et qu'est-ce qui, dans leur façon de faire ça, qu'est-ce qui me travaille? Et je vais essayer de ne pas rester sur le fait, ils sont bizarres. Non, oui, il y a un truc qui ne va pas, mais ils ne sont pas si bizarres que ça. Ils me font penser à des enfants, mais ce n'est pas des enfants. Ça serait leur retirer une humanité de
Ah
dire qu'ils
oui.
ressemblent à des
Ah
enfants.
oui. Moi, j'ai eu quelques expériences sur scène avec des gens atteints de trisomie 21, et notamment une soirée où on avait deux au premier rang, et c'était deux filles, et ce sont les gens les plus honnêtes que tu puisses trouver. Ça, c'est assez cool. Après, on leur avait promis qu'il y aurait un karaoké et qu'elles allaient chanter. Et on s'attendait à qu'elles attendent, genre, 1 heure de spectacle avant ça. Et ça, c'était con parce que, elles disaient, quand est-ce qu'on chante? C'est quoi le. Et le premier humoriste qui passe, il dit merde. Et il y a une des filles qui dit non, non, c'est pas merde, c'est mercredi. Et là, c'est. Voilà, c'est sans. Disons que ça te force à la relation. Tu peux
Ouais.
pas faire semblant qu'elles étaient pas là, que machin. Non, non. Je suis là, j'existe. Et toi, tu vas reconnaître mon existence et tu vas être confronté à moi. Et ça, franchement, c'était très, très cool. Mais c'est une histoire de code aussi, que c'est bizarre, quoi.
Tout à
C'est comme si
fait.
tu parlais une langue différente, tout est différent, quoi.
Moi, j'aimerais vraiment le stand-up, j'aimerais. Tu vois, on parle souvent d'inclusivité dans le stand-up. J'aimerais tellement avoir ce public et voire même faire de l'accompagnement sur ce type de public. C'est-à-dire pouvoir accompagner quelqu'un qui a le syndrome de Down et dire bah, écoute, viens, on essaie de voir ce que ça donne quand tu fais des blagues et c'est quoi ton humour et c'est quoi qui te fait rire. Et je suis sûr que j'en sortirai totalement transformé de cette expérience-là. Donc, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une association, quelqu'un pour moi œuvrer dans ce sens-là, pour soi. amener le stand-up, et peut-être c'est déjà fait, peut-être que j'arrive après la bataille, soit accompagner quelqu'un qui se sent, qui a cette âme d'humoriste en lui, et voir comment on traduit ça sur scène pour faire le chemin vers les spectateurs.
Ouais, parce que ça, c'est franchement, c'est... Et d'ailleurs, quand c'est mal connu, et aussi, mais je vois, je travaille avec deux humoristes qui sont porteurs d'handicap ou en situation d'handicap. Et des fois, ils parlent beaucoup de l'handicap, c'est normal, mais c'est... Moi, je veux, mais ça, c'est mon envie à moi, que ce soit plus profond, plus putain, mais la colère, elle est où la colère? Qu'est-ce que t'en fais de ta colère? Comment tu fais ça? Comment tu traverses l'existence? Putain, mais... Et alors que l'handicapé est censé être rigolo, gentil, faire des petites blagounettes sur son truc, et haha, on y rigole et tout va bien, mais c'est pour nous rassurer, nous, ou pour rassurer les gens qui pourraient être mal à l'aise avec leur handicap. Et franchement, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose là où
Il
il
y en
faut
a
défendre.
clairement là. Il y a une nana clairement qui débute en stand-up et qui parle de sa fille handicapée et son regard il est incroyable parce que c'est un handicap lourd et elle l'en parle vraiment, elle met des mots sur quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. Et ça, c'est du vrai stand-up, c'est-à-dire que tu amènes à penser autrement les choses sur sa fille, sur elle, sur ses relations, sur ce que ça fait d'être parent de quelqu'un d'handicapé. Et autre chose que j'ai vu de très intéressant, c'est qu'il y a un comédien à Paris. Il s'appelle Valentin Rainer, qui est une bête de comédien, qui a fait incroyable talent, qui est trop fort, qui est bègue. D'accord? Donc, est-ce que ça fait partie des handicaps? Est-ce que. Et tu vois, c'est une vraie interrogation sur ça, et sur le degré d'handicap, et lui, la D7, où ce n'est pas un sujet, en fait. Ce n'est pas un sujet, il est bègue.
Ah oui, moi je suis
Comme moi,
content.
j'ai un accent. Voilà, j'ai un accent. C'est juste un fait de sa vie, il est bègue, il n'en parle pas du tout et il éclate la salle. Ce n'est pas un problème. Par contre, tu as vraiment quelqu'un qui est bègue en face. C'est-à-dire que tu es confronté à cette forme de handicap, qui est un handicap particulier, qui est un handicap qui est relativement courant, le fait est. Mais lui, il franchit toutes les barrières et il l'adresse même pas parce que ce n'est pas un problème dans son set qu'il soit bègue. Il n'a pas besoin de parler de ça. C'est juste un fait de sa vie.
Ben oui, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors que il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup de rires faciles que tu peux aller chercher avec ça. Parce que c'est une référence qui est disponible, les gens te voient, etc. Ils ont réfléchi au fait que tu vas faire. Oui, mais c'est
Il le
ça. C'est un
fait.
peu
Il le
comme.
fait. Il y a un set où il le fait parce que c'est évident. Et c'est, il peut gagner le public avec ça très facilement,
Oui.
mais il ne le fait pas tout le temps systématiquement parce que c'est pas un one trick pony. C'est pas l'homme d'une seule blague, ce gars-là.
Mais oui,
C'est un mec
mais
qui veut
c'est.
s'inscrire dans la comédie, pas dans l'handicap. Il s'inscrit, c'est un comédien, c'est pas un handicapé.
Ben oui, mais c'est ça, c'est un peu comme ça me fait penser au Uncle Joe routine aux États-Unis, que le Uncle Joe, c'est le noir qui fait des blagues sur être noir. Et c'est tout son matériel, c'est ça. Les blancs dansent comme ci, les noirs dansent comme ça. Les femmes comme ci, ils dansent comme ça. Et en France, tu vois, beaucoup, c'est un peu le bled. Ah, ça, au bled, c'est comme ci, au bled, c'est comme ça, machin, machin. Quand t'es portugais, bah, t'es portugais, c'est le carrelage, c'est le truc, c'est les poils, c'est machin, machin. Quand t'es gros, c'est que t'es gros. Mais des fois, tu te fais des fonds de commerce comme ça. Mais au bout d'un moment, le public, il peut se dire, mais ok, t'es gros. Ok, ben alors. Et alors. C'est
Qu'est-ce que tu as à
ça.
dire de plus?
Oui, c'est ça. Voilà, ok, d'accord. Ok, j'ai compris, je t'ai vu. Connard, t'es gros. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Et voilà, quoi. Mais bon, l'autodérision, ça marche bien. On peut, voilà, c'est sympa, c'est une bonne technique pour se mettre le public dans la poche, etc. et tout. Mais, et alors, quoi d'autre?
Ne restez pas, voilà, 10 ans sur ça, c'est pas le
Ben
but.
oui, faites des blagues de bites.
Exactement, non, bien sûr à ça. Sinon, la semaine d'un prochain épisode, on va parler, là on n'a plus de temps, on parlera d'une série sur Netflix qui s'appelle Mon Petit Renne. C'est
Ouais,
un
j'ai vu
carton sur Netflix, j'en parle avant pour pas comme ça qu'on en parle. On vous spoil pas. Toi, tu as vu quoi, le teaser?
Juste le
Alors, Mon
teaser.
Petit Renne. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire d'un humoriste qui s'est fait harceler hardcore par quelqu'un qui était déséquilibré, par une femme en l'occurrence. Ça se passe en Écosse. C'est une histoire vraie. C'est tiré d'un spectacle où le mec raconte toute son histoire. C'est pas feel good du tout. Moi, c'est très malaisant. C'est cringe au possible. Mais c'est vraiment, ça me prenne cartonné sur Netflix. C'est limite le programme qui parle de stand-up qui est le plus vu sur Netflix, je suppose, ces dernières années. Donc je vous recommande fortement de le regarder. On en parle au
Oui.
prochain épisode. Est-ce que ça te va, Scott?
Ça me va très bien, je vais m'y mettre tout de suite.
Les amis, passez une bonne semaine. Si vous voulez retrouver Scott Fins sur Instagram, il est très très disponible. Il vous répond immédiatement. Il produit des gens. Donc
C'est
envoyez
ça.
vos rendez-vous à Scott et faites du père de la journée.
C'est ça.
Moi, ne m'envoyez rien, j'ai pas besoin de pas besoin de
C'est
faire
ça.
autrement. J'ai besoin d'une voiture, donc si vous avez une voiture, envoyez-moi votre voiture.
Ouais. Ça, c'est très bien. Ah, moi, j'ai besoin de 250 000 euros pour acheter un comedy club à Toulouse.
Ah bah alors, ça c'est possible qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui disent zone de. Voilà, peut-être c'est un investissement, le Comedy Club, c'est un investissement à faire qui peut
Alors,
être.
pour ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant, ils méritent de savoir au scoop s'il y a un théâtre qui existe depuis 35 ans à Toulouse et qui est en phase d'être transmis, vendu ou quoi. On va le visiter demain.
C'est quoi
Je crois.
le citron bleu là, le truc bleu?
Oui, c'est ça, c'est Citron Bleu qui
Ah
va,
ouais.
qui et
Ouais, j'ai eu une
que.
expérience horrible là-bas. Une expérience, mais. J'arrive en 2-2, c'est un moment où c'était sélection d'un festival.
Ah oui.
Et en fait, les gens du festival se sont mis sur une table en longueur, comme dans Game of Thrones. Toi, tu joues au bout sur la scène, au bout de la table. Et eux mangeaient pendant que toi, tu fais ton sketch, mais vraiment en mode aucun respect Game of Thrones, alors que c'est une sélection d'un festival. Et je leur en veux toujours dans le sens où c'est. Je crois qu'il y a un minimum viable pour accueillir les artistes et que ce jour-là, ils n'ont pas fait le minimum viable.
Voilà, donc si vous, malgré ça, voilà, pour changer des choses, votez de je sais pas. Donc, va
Donc, je
voir,
vais
parce que
visiter, tu vas visiter ça et tu
voilà.
vas t'endetter. Tu as le droit de t'endetter, toi, Scott, ou tu as les papiers pour t'endetter ou c'est compliqué?
Non, moi, moi, je dois encore 20 000 euros pour payer mon divorce, donc ça va. Mais c'est
Voilà.
pour ça que j'y vais tranquille. Je ne peux pas me ruiner. Parce que c'est pour ça. Un crowdfunding, peut-être. Une prévente de billets, peut-être. Mais la banque, je ne sais pas si elle va me suivre. Perso, en tout cas. Avec
Bah,
Scott Fins Productions, peut-être.
en tout cas, moi, je suis très étonné, je vous le dis. Si vous ouvrez un Comedy Club, je suis super étonné du manque de benchmark des gens qui veulent des Comedy Clubs. C'est-à-dire, les gens qui veulent ouvrir un Comedy Club ne vont pas voir d'autres Comedy Clubs, ne vont pas visiter, ne demandent pas le modèle économique à ceux qui ont ouvert. Et ils se lancent vraiment tête baissée sur des choses où ils ne comprennent même pas ce qu'ils vendent. Et Charlet et Soignant avaient ce truc génial de dire, moi, j'ai découvert plus tard que mon commerce était de vendre des bières.
Ah oui, ça c'est
C'est fou de découvrir quand ton comedy club il est lancé.
Oui, mais c'est surtout que c'est l'origine du stand-up. C'est ça. C'est ça qui a commencé le stand-up. C'est pour
Ouais.
vendre des bières et
C'est une
Et oui.
animation commerciale le stand-up à la base. Hein.
Mais c'est
C'est
ça.
pour ça que quand vous allez démarcher un bar ou un truc comme ça, n'allez pas lui dire que vous jouez le samedi soir où il est déjà rempli. Vous êtes là pour occuper les jours, pour faire de l'animation les jours où il ne remplit pas.
Ben oui, ben
Dans le
oui.
fond. Ou alors occuper un espace qui n'est pas occupé un peu comme, tu sais, quand tu as un commerce et que tu as des locaux très grands et quand tu deviens relais colis, eh ben, le stand-up, c'est la même chose. Il y a une cave d'un bar qui n'est pas exploitée parce qu'on ne va pas mettre des gens dans une cave. Eh ben, ça marche pour le stand-up. Pendant cet espace de temps, il y a des gens qui peuvent consommer en bas parce que c'est spécifique au stand-up. Donc, occupez ces terrains-là, occupez les créneaux qui ne sont pas occupés. Et
Ben
si
oui.
vous lancez un comedy club, soyez smart, étudiez les autres, étudiez les modèles de réussite. Demandez la comptabilité, je vous assure que les gens ne sont pas radins, les propriétaires de Comedy Club qui viennent d'ouvrir, ils sont tout à fait disposés à échanger avec vous. Ils vous expliqueront quelles sont leurs dépenses, quelles sont leurs surprises, quelles sont leurs bonnes surprises et mauvaises surprises, où sont leurs postes de dépenses, où c'est qu'ils ont dû revoir leur modèle, voir les cachets à la baisse, voir les choses. Moi, j'ai vu toutes les configurations et quand c'est qu'ils ont atteint le point mort et le point de bénéfice.
C'est ça.
Scott, bonne chance, je
Allez,
vais te
on y
Comedy
va.
Club.
À
Ciao,
que
ciao,
beaucoup.
bonne semaine.
Ciao, ciao, darlings.